nous reprenons, si vous voulez bien. Avec François Hartog, qui est notre invité aujourd'hui, et qui est donc un historien, qui va nous parler de l'histoire en 1966, et qui est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et dont la spécialité est l'historiographie, précisément. On a évoqué un certain nombre de livres d'historiens dans cette année 1965-1966, de livres importants qui ont été publiés à ce moment-là, notamment ceux de Jean-Pierre Vernant, qui a été le maître de François Hartog, sa thèse portait donc sur l'histoire antique, sur Hérodote, sur l'écriture de l'histoire chez Hérodote, et d'autres ouvrages que nous avons pu évoquer à un autre moment de l'histoire, c'est la Révolution française de Furet et Richer, François Furet et Denis Richer, hein, publié en deux volumes à la fin de 1965 et au début de 1966. Je crois qu'on a évoqué aussi les paysans de Leroy Ladurie, la thèse de Leroy Ladurie, publication importante de cette année-là. La semaine dernière, Pierre Nora a donné beaucoup d'importance au livre de Pierre Goubert, Louis XIV et 20 millions de Français, qui a eu un effet considérable sur l'écriture et la conception de l'histoire. Bien sûr, il y a la publication des mots et des choses de Michel Foucault, qui n'a pas été sans avoir beaucoup d'influence sur l'écriture de l'histoire dans les années qui ont suivi, qui a été critiqué par les historiens également. Je me souviens de cette critique sévère de l'historien marxiste Pierre Villard, des mots et des choses de Foucault dans la partie d'histoire économique. Je pense qu'on a aussi mentionné la semaine dernière avec Pierre Nora la réédition de La Méditerranée et le monde méditerranéen, le grand livre de Braudel, republié au cours de l'année, je crois au printemps de 1966. Donc il y a une actualité importante de livres d'histoire comme dans tous les domaines des sciences humaines. Bien sûr, il y a aussi un débat fondamental de cette année 1965 qui est celui des rapports entre histoire et structure, puisqu'on accuse, la grande accusation qui est faite contre le structuralisme, c'est la méconnaissance de l'histoire. Parler de ce que pensent les historiens de cette accusation qui est faite notamment dans les revues comme La Nouvelle Critique, donc les revues proches du Parti communiste. C'est là où il y a cette accusation de méconnaissance de l'histoire, hein, en particulier dans La Nouvelle Critique. Donc voilà tout ce dont nous pouvons sans doute parler, mais je ne sais pas du tout si c'est ça que François Hartog a envisagé. Je voudrais aussi rappeler qu'il est beaucoup de ses travaux ont porté sur la notion de régime d'historicité, et en particulier son livre publié en 2002, Régime d'historicité, présentisme et expérience du temps. Hein ? Et donc une réflexion sur les rapports du passé, du présent et du futur dans l'écriture de l'histoire. Peut-être qu'il aurait quelque chose à dire sur la manière dont un cours comme celui-ci est conçu, faisant une coupe synchronique, décidant de s'intéresser à une année et à un certain nombre de manifestations, sinon toutes, parce qu'on ne peut pas toutes les évoquer, de cette année 1965-1966. Qu'en pense le spécialiste des régimes d'historicité ? Voilà beaucoup de sujets que je soumets à ta réflexion, et puis on pourra en discuter un peu tout à l'heure.
Merci. Alors, la situation de l'histoire 1965-1966. À quoi s'intéressent les historiens? Où se situe l'histoire? Je ne vais évidemment pas pouvoir prendre tout ce qui se publie, tout ce qui se fait entre ces deux dates, et je vais mettre l'accent sur quelques points. Une première remarque, qui ne vaut pas seulement pour l'histoire, mais qui vaut pour elle, il faut être attentif aux conditions de travail. C'est-à-dire que nous sommes encore dans un moment où il y a peu de gens, il y a peu de postes, et le travail est scandé dans l'université par la thèse d'État, et aussi la thèse de troisième cycle qui, depuis peu, a fait son apparition. Autrement dit, ce que l'on voit paraître dans les années 65-66 sont des travaux, et c'est évidemment quelque chose dont qu'il faut mesurer, sont des travaux qui ont été entamés 10 ans plus tôt. Ou des choses qui se mettent en route, qui commencent dans ces années-là, vont aboutir 10 ans plus tard. Bon. Donc ça donne quand même une mesure de la façon dont on peut réfléchir sur ce qui se passe en une année. Ça ne veut pas dire que prendre cette coupe synchronique n'a pas de sens, pas du tout. Mais ça veut dire que pour mesurer ce qui s'y passe, il faut tenir compte de ce qui a été engagé bien avant, et je vous en donnerai quelques exemples. Pour parler de la situation de l'histoire, on peut prendre comme premier repère la leçon inaugurale de Fernand Braudel au Collège de France, 1950. Car il porte là un diagnostic sur la situation de l'histoire après la guerre. Et il définit un programme, le sien, très largement, mais qui va valoir au-delà de lui-même, puisque Braudel, quelques années plus tard, prend pleinement la succession de Lucien Febvre et devient celui qui va, jusqu'en 1968, inspirer, diriger, avec une autorité forte qui était la sienne, les annales. 1950, que dit-il ? Un nouveau monde, pourquoi pas une nouvelle histoire ? Quelles sont les caractéristiques de ce nouveau monde et de cette nouvelle histoire ? Dépassement de l'individu, dépassement de l'événement, une histoire qui s'intéresse aux anonymes, une histoire anonyme, dit-il, profonde, silencieuse, l'histoire lente des civilisations, une histoire lourde, ce sont autant de mots qu'il emploie et que je reprends, une histoire lourde, et tout un passé à reconstruire. Question qu'il se pose, celle de la continuité et de la discontinuité, qui va être un des grands débats des années 60, et en particulier avec la parution des livres de Foucault. Continuité, discontinuité, y a-t-il, dit-il, ou non, une exceptionnelle et brève coïncidence entre tous les temps variés de la vie des hommes? Est-ce que ce phénomène-là se produit? Et s'il se produit, alors c'est ce qu'on appelle une révolution. Un thème qui est celui aussi bien déjà de Lucien Febvre que de Braudel que des annales, c'est le rapprochement opéré entre l'histoire et la vie. La vie et notre école. L'unité de l'histoire et l'unité de la vie. Une espèce de certain vitalisme qui n'est pas élaboré, qui n'est pas conceptualisé, mais qui est constamment présent dans leur approche de l'histoire. En 1958, Braudel propose un article fameux qui a été repris très largement, qu'il a republié, qui est son article sur la longue durée. 1958, l'article paraît dans les annales, et c'est le moment où il propose aux autres sciences humaines, au fond, une espèce de direction historique, douce, mais quand même ferme, en disant « Je mets à votre disposition cet instrument qu'est la longue durée. Et avec cet instrument qu'est la longue durée, peut-être on pourrait construire quelque chose comme, et l'expression est bien de saison, un marché commun des sciences de l'homme. » Voilà, en quelques mots, une direction de l'histoire, celle des annales, celle que représente Braudel, et du même coup, l'institution qui va se développer au cours de ces années, qui est la sixième section de l'École pratique des hautes études, fondée par Lucien Febvre et dirigée ensuite par Fernand Braudel, jusqu'en 1968. Maintenant, si on prend un tout petit peu de recul par rapport à l'histoire comme discipline et à ce mouvement je ne prétends pas décrire là le tout de l'histoire, mais un certain mouvement et qui se fait entendre le plus largement, ce qui frappe, c'est un certain décalage de l'histoire par rapport aux débats qui ont cours dans les années 65-66. L'histoire suit sa propre voie ou ses propres voies, et il y a un décalage par rapport aux débats, c'est-à-dire les débats sur le structuralisme. Débats que l'on voit se manifester, s'exprimer, se déployer dans un certain nombre de numéros de revues dont vous avez probablement déjà eu l'occasion de parler. Un numéro d'Esprit, dès 1963, pose la question du structuralisme et, à la suite de la publication de La pensée sauvage de Lévi-Strauss en 1962. En 1967, Esprit réitère un numéro spécial sur le structuralisme. Et en 1966, la fin de 1966, vous avez un numéro des temps modernes, un dossier des temps modernes sur le structuralisme. Et là, il y a bien sûr Lévi-Strauss, il y a bien sûr Lacan qui sont présents, mais commence à être présent Michel Foucault avec Les mots et les choses. Or, Antoine Compagnon l'a rappelé en commençant, dans ces numéros spéciaux, où on parle beaucoup d'histoire, il n'y a pas un seul historien. C'est une histoire vue par les philosophes. Et c'est la question de savoir, le structuralisme est-il anti-historique, oublie-t-il l'histoire, fait-il passer l'histoire à la trappe, etc., etc. Sur l'état d'esprit qu'il pouvait être régner dans ces années, je ne prendrai qu'un seul exemple, avec une courte citation d'Émile Benveniste, dont vous allez parler prochainement, je crois. Dans Les problèmes de linguistique générale, publié en 1966, donc c'est un des premiers livres publiés dans la nouvelle collection créée par Pierre Nora chez Gallimard, Benveniste écrit ceci, célébrant à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de la mort de Saussure, qui a eu lieu en 1963, mais le texte, là, est repris et paraît en 1966. La portée du principe du signe, instauré comme unité de la langue. Bon, c'est ce qui semble caractériser, comme ça, en une phrase, ce qu'a proposé Saussure. Or, nous voyons, continue Benveniste, or, nous voyons maintenant ce principe se propager hors des disciplines linguistiques et pénétrer dans les sciences de l'homme qui prennent conscience de leur propre sémiotique. Et cette phrase, très importante, sous la plume de Benveniste, qui est quand même la plus grande autorité en matière de linguistique, alors, loin que la langue s'abolisse dans la société, c'est la société qui commence à se reconnaître comme langue. Des analystes de la société se demandent si certaines structures sociales, ou sur un autre plan, ces discours complexes que sont les mythes, bon, là bien sûr on pense à Lévi-Strauss, ne seraient pas à considérer comme des signifiants dont on aurait à rechercher les signifiés. Ces investigations novatrices donnent à penser que le caractère foncier de la langue, d'être composé de signes, pourrait être commun à l'ensemble des phénomènes sociaux qui constituent la culture. Bon, on a là, je crois, en quelques lignes, un diagnostic sur la période et sur ce qui en fait l'unité intellectuelle pour tout un ensemble de gens et ce qui réunit tout un ensemble d'études. Et au fond, ça va être une espèce d'évidence partagée pendant ces années qui va peu à peu, évidence qui va peu à peu se défaire et de laquelle nous sommes aujourd'hui complètement sortis. Dans le numéro d'Esprit de novembre 1963, La pensée sauvage et le structuralisme, on a une étude sur la question de savoir si on peut arriver à une véritable étude diachronique d'une société, c'est-à-dire une histoire structurale. Et celui qui fait l'article, qui est un anthropologue, Gaborio, conclut que chez Lévi-Strauss, ça n'est qu'un projet. Dans les numéros d'Esprit de mai 67, ce qui est alors interrogé fondamentalement par Domenach, c'est la question du sens. Bon, cette avancée du structuralisme perçue comme ce qui se débarrasse, refuse, le sens. Le sens n'était qu'une sorte d'effet de surface, une écume, et c'est une citation de Michel Foucault, le sens n'était qu'une sorte d'effet de surface, une écume, ce qui nous traversait, ce qui était avant nous, ce qui nous soutenait dans le temps et dans l'espace, c'était le système. Et c'est bien sûr ce que Domenach questionne fortement. Alors, je l'ai dit, l'histoire se tient à l'écart par rapport au structuralisme. Et les annales ne vont pas consacrer un numéro au problème d'histoire et structure avant 1971. Esprit commence en 63, vous avez 66, 67 et bien d'autres, mais les annales, 1971. Sur le structuralisme, il y a un article intéressant, écrit en 1967, publié en 1967, de François Furet, intitulé « Les intellectuels et le structuralisme ». Bon, François Furet, l'historien que vous connaissez, est ancien communiste, et alors il fait cette analyse qui a été reprise, le structuralisme, c'est une anti-histoire, et cette France, dit-il, expulsée de l'histoire, accepte d'autant mieux d'expulser l'histoire. Donc c'est une espèce d'attitude de compensation. La France est expulsée de l'histoire, donc les intellectuels expulsent l'histoire et se rabattent sur le sauvage, qui est devenu pour un temps le modèle des sciences de l'homme. À cette objection, objection oui, de Furet, ou à ce diagnostic de Furet, Michel Foucault avait répondu, si je puis dire par avance, à propos des mots et des choses, publié en 1962, disant que, certes, on lui reprochait d'ignorer l'histoire, de faire passer l'histoire à la trappe, mais disait-il, les historiens de métier, eux, ont reconnu dans mon livre un livre d'histoire. Car ce livre fait état, est en accord avec justement cette mutation de l'histoire qu'évoquait Braudel en 1950, et ont développé des études sur la manière d'approcher la discontinuité. Et il cite là les travaux de Braudel. Et il arrive à cette Foucault, toujours dans ce, c'est dans un entretien de 1966, je crois, ou 65, à cette définition de l'histoire. L'histoire, au fond, c'est l'ethnologie interne de notre culture et de notre rationalité. Qu'en est-il du structuralisme dans les annales? Alors prenons justement une coupe, 1966. Qu'est-ce qu'on dit dans les annales entre 1965 et 1966? 1966, c'est le 10e anniversaire de la mort de Lucien Febvre. Et Fernand Braudel écrit un éditorial sur ce 10e anniversaire. Alors c'est très bref, mais quand même, ça donne quelques indications justement sur la perception qu'il a du rôle de Lucien Febvre, bien sûr, mais aussi de la situation de l'histoire. Qui doit, dit-il, comme du temps de Lucien Febvre, s'ouvrir aux nouveautés? Elle doit s'ouvrir aux nouveautés, mais elle court le risque. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent chez les historiens du milieu des années 60 au milieu des années 70. Elle court le risque d'être submergée par le torrent des sciences sociales. Aussi, il faut réussir à dominer cette masse que produisent les sciences sociales, ou alors on risque de rater cette opération et l'histoire court le risque de se trouver débordée, marginalisée, dépossédé de son rôle central. Et pour une part, l'attitude face au, disons, structuralisme, pour employer un seul mot, va être une attitude de défense. Et si vous prenez, je disais, du milieu des années 60 au milieu des années 70, si vous prenez ces volumes qui ont été publiés en 1974, sous la direction de Nora et Le Goff, qui s'appelle « Faire de l'histoire ». Bon, et peut-être que si vous avez fait de l'histoire, vous avez eu entre les mains ces trois volumes. Bon, pour une part, donc il s'agit de donner une espèce de vitrine, les nouveaux objets, les nouveaux thèmes, les nouveaux je ne sais plus quoi. Bon, mais pour une part, la motivation de départ, c'est de défendre l'histoire contre les empiétements, en particulier de l'anthropologie, contre les menaces que fait peser cette anthropologie, elle-même portée par la linguistique. Donc il y a cette, comme ça, une attitude bon, on peut se lancer dans des offensives, mais c'est une offensive qui vise d'abord à la défensive. Et il pense, dans son cours éditorial, Febvre, vont pouvoir invoquer les mannes de Lucien Febvre pour justifier ce programme de, certes, ouverture aux nouveautés, mais, dans le même temps, ne pas être submergé, faire en sorte de ne pas être submergé. Je viendrai un peu plus tard, pour finir, à la situation de l'Antiquité, de l'histoire ancienne ou des études sur l'Antiquité. On peut remarquer, je me contenterai de cette remarque pour l'instant, on peut noter que l'histoire ancienne est assez présente dans les annales de 1965-1966. Il y a plusieurs articles, comptes rendus, notes critiques. Antoine Compagnon l'a rappelé, en 1965 paraît Mythes et pensées chez les Grecs de Jean-Pierre Vernant. Eh bien, autour du travail de Vernant, on a des écrits qui commencent à apparaître. Il y a le livre de Vidal-Naquet et l'évêque Clisthène l'Athénien, bon, qui sort directement, très largement, du séminaire de Jean-Pierre Vernant. Il y a les premiers écrits de Marcel d'Étienne, et dont un article est publié justement en 1966 dans les annales. Et il y a, c'est assez intéressant, j'avais jamais noté ça, c'est un compte-rendu du Mythes et pensées chez les Grecs rédigé par Jacqueline de Romilly dans les annales. Bon. Et Gernet, Louis Gernet, qui est encore là, Louis Gernet écrit un compte-rendu du livre de Jacqueline de Romilly, Histoire et raison chez Thucydide. Donc, il y a une présence active de l'Antiquité dans les annales mêmes. 66, qu'est-ce qu'on dit du structuralisme dans les annales ? Je suis l'année. Vous avez un article de Nathan Vachtel, que vous connaissez sûrement, qui justement fait un article sur anthropologie et histoire, c'est le thème, mais à partir d'un livre d'un historien qui s'appelle Zuidema sur l'organisation sociale de Cusco, l'ancienne capitale des Incas, bon, qui est une tentative d'histoire structurale. Et à propos de ce livre, Nathan Vachtel écrit une longue note critique en commençant par dire, bon, je ne vais pas détailler évidemment le contenu du livre, ni de la note critique, mais je retiens simplement la manifestation, l'expression de cela, l'ouvrage fera date aussi bien pour l'anthropologue que pour l'historien. Il n'est pas étonnant, continue Vachtel, que dans l'actuel débat sur le structuralisme, 66, que dans l'actuel débat sur le structuralisme, les historiens se soient peu exprimés. Ils apprennent à critiquer des documents, non à manier des concepts. Tout ce qui ne s'appuie pas sur des archives relève à leurs yeux d'une métaphysique suspecte. Ils sont donc peu portés au débat théorique. Ils avouent ainsi trop souvent une philosophie encore positiviste et scientiste qui, paradoxalement, les conduit à ignorer l'état des autres sciences humaines. Donc, vous voyez, Vachtel, en quelques lignes, semble décrire ce qu'il considère comme étant la position moyenne, au fond, des historiens, et, bien entendu, dans la suite, il va s'en distinguer, tout en gardant cette spécificité du travail de l'historien. Sans renier la méthode empirique des historiens, comme il le dit. Mais avant, dans les annales, vous aviez eu plusieurs articles, en 1964, sur les sciences humaines et l'œuvre de Lévi-Strauss. Et celui qui avait initié le dossier était Roland Barthes, à propos de la pensée sauvage. Et Barthes commence par un petit chapeau assez bref pour présenter pourquoi les annales font ça, pourquoi elles s'y intéressent. La pensée sauvage apparut il y a environ 2 ans. Nous sommes Dès ce moment, les annales ont désiré s'associer à la discussion qui ne pouvait manquer de se développer autour de ce livre important. Toutefois, nous n'avons pas voulu ouvrir un débat sur l'œuvre de Claude Lévi-Strauss sans disposer d'un certain nombre de réflexions véritables et non seulement de réflexions de réactions d'actualité. Bon, oui, bien sûr, mais enfin, voyez, ça montre aussi que ce n'est pas aussi facile que ça. Ceci explique que nous ayons pris notre temps et que nous le prenions encore. Le débat qui s'ouvre aujourd'hui doit se poursuivre au moins pendant 2 numéros après celui-ci. Bon, en réalité, non. Mais le débat, alors c'est là où on voit bien qu'il y a quand même une difficulté, aucun historien ne va intervenir. C'est-à-dire, tous les articles, il y a plusieurs articles qui ont été publiés sur la pensée sauvage de Lévi-Strauss, mais ce sont des articles de philosophes. Vous avez un article de Raphaël Pividal, « Peut-on acclimater la pensée sauvage ?» Vous avez un article de Jean-François Lyotard, « Les Indiens ne cueillent pas de fleurs ?» Vous avez un article de Jean-Claude, je crois, Piquet, « Les conflits de l'analyse et de la dialectique ». Bon, là aussi, je ne vais pas entrer dans chacun de ces contributions, ce n'est pas notre propos. Hein. Mais vous voyez, donc les annales, à l'initiative de Roland Barthes, disent il faut faire quelque chose autour de la pensée sauvage, mais on a pris notre temps, on ne veut pas réagir à chaud, on veut... Bon. Et puis 2 ans après, 3 ans après, vous avez 3 articles de philosophes, et c'est tout. Et 2 pages de Barthes. Ce n'est pas un article. Il présente les choses. Voilà. Alors, est-ce tout ? Non. Car le débat ou la confrontation avec Lévi-Strauss et donc le structuralisme ont commencé avant. On peut même dire que ce débat... Il a commencé dès 1949. 1949, publication des structures élémentaires de la parenté par Lévi-Strauss, publication de la Méditerranée, de la première édition de la Méditerranée de Braudel. Bon, les deux livres ont été conçus en toute ignorance l'un de l'autre, compte tenu en plus des circonstances dans lesquelles ils ont été élaborés, mais... Ce qui est intéressant, évidemment, les structures élémentaires, c'est l'affirmation du structuralisme, de la méthode structurale selon Lévi-Strauss, et Braudel, dans son livre, parle, dans la conclusion de la première édition de la Méditerranée, d'histoire structurale, pour désigner son approche de la Méditerranée. Histoire structurale. Et de manière très intéressante, tu faisais allusion tout à l'heure à la 2e édition de 66, l'expression a disparu. Il ne reprend plus à son compte en 66 histoire structurale pour désigner son approche. La formulation devient alors structure, virgule, histoire lente d'abord. Bon, vous voyez bien qu'il s'agit de marquer qu'il y a d'un côté la structure de l'anthropologue, de l'autre côté la structure de l'historien, et que ces deux structures, en réalité, n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. Dans la conclusion de la 2e édition de la Méditerranée, donc 66, Braudel va même mettre les points sur les i. De manière très ferme, et nous sommes justement après la parution de la pensée sauvage. Il dit ceci, je suis, maintenant qu'est-ce que ça veut dire, ça c'est une autre question, mais il dit, je suis structuraliste de tempérament. Et il ajoute tout aussitôt, peu sollicité par l'événement, et à demi par la conjoncture. Et il rajoute encore quelque chose, si bien que le structuralisme d'un historien n'a rien à voir avec la problématique qui tourmente, sous le même nom, les autres sciences de l'homme. Nous sommes en 66. Il ne se dit, enfin, cette conclusion est datée de 65, mais peu importe. Si bien que le structuraliste d'un historien n'a rien à voir avec la problématique qui tourmente sous le même nom les autres sciences de l'homme, il ne se dirige pas vers l'abstraction mathématique des rapports qui s'expriment en fonction. Et, conclusion, l'historien travaille, entre, je cite, au ras du sol. C'est la fin du flirt, de la structure et de la longue durée, ou du flou entre l'une et l'autre. Par ailleurs, l'histoire ne se limite pas à Braudel et à son dialogue, confrontation avec Lévi-Strauss. Il y a, comme je vous l'ai dit, cette voie propre de l'histoire que je vais me contenter d'évoquer en quelques mots, vu que le temps file. C'est celle que l'on peut mettre sous le nom d'Ernest Labrouste. Ernest Labrouste, tous ceux qui ont fait un peu d'histoire savent qui est Ernest Labrouste. C'est l'homme, je dirais, sans mauvais jeu de mots, qui compte, à tous les sens du terme. Et dans les années 60, Labrouste est professeur à la Sorbonne, il est aussi à l'école pratique, mais c'est lui qui dirige les thèses. Et toutes les thèses qui vont sortir de l'atelier de Labrouste jusqu'au milieu, jusqu'à la fin des années 70, ce sont toutes ces thèses qu'on a appelées ces thèses régionales. Hein, avec, il y avait un article comme ça qui a été écrit assez drôle, « Faut-il départementaliser l'histoire de France ?» Puisque Labrousse avait distribué comme ça la thèse, donc il y avait justement Goubert, le Beauvaisis, le roi Ladurie, le Languedoc, ça c'est les plus fameuses, mais il y en a des tas d'autres. Bon, et il y avait cette espèce d'idée assez étrange, enfin, hein, une fois qu'on aura des thèses sur tous les départements, eh bien, on aura une histoire complète de l'ancienne France. Mais vous avez encore Agulon, je dirais, hein, s'est encore embarqué dans cette affaire, Vauvel, enfin, tous ces historiens-là ont été des élèves de Labrousse. Hein, donc, importance de Labrousse, et tout part de l'histoire des prix. Donc une histoire quantitative, avec comme ça, une certaine dose, suivant les uns ou les autres, de marxisme, une histoire sociale, et puis cette histoire quantitative, sociale, sérielle, avec Chaunu, va peu à peu passer, comme l'a dit Michel Vauvel, de la cave au grenier, c'est-à-dire des infrastructures vers les superstructures, si j'emploie ce vocabulaire, c'est-à-dire vers l'histoire des mentalités, mais vers une histoire des mentalités qui va être conçue sur le même modèle que cette histoire sociale, du moins dans un premier temps. L'impulsion première vers le quantitatif, elle est venue de Labrousse, d'une histoire des prix, et le débouché, c'est ce que dira le roi Ladurie, justement en 1967-1968, c'est l'utilisation de l'ordinateur. Vous avez cette fameuse formule de le roi Ladurie, c'était dans un article, quand à l'époque où il faisait des chroniques régulières, alors est-ce que c'était dans l'Observateur ou dans Le Monde, parce qu'il faisait les deux, je ne sais plus, l'historien de demain sera programmeur ou ne sera pas. Bon, avec justement ce vocabulaire aussi, qui, plus personne ne sait ce que ça veut dire programmeur aujourd'hui, ou à peu près. Bon, mais voilà. Donc, mais c'était absolument dans la suite de cette histoire quantitative de Labrousse. Un mot pour terminer, comme je vous l'avais annoncé, sur l'Antiquité. Plusieurs notes critiques dans les annales, ai-je dit, mais le point de rassemblement, là où les choses se nouent, c'est le travail, c'est le séminaire de Jean-Pierre Vernant dans ces années-là. Et la voie qu'il propose, c'est celle de la psychologie historique. On ne parle pas encore, en 66, 65, on ne parle pas encore d'anthropologie historique. L'expression « anthropologie historique », sous la plume de Vernant en tout cas, n'apparaîtra pas avant 68 dans la préface du volume des écrits de Gernet, de Louis Gernet, qu'il publie à ce moment-là avec cette revendication d'anthropologie historique. Mais 65, mythe et pensée, on est encore dans la psychologie historique, c'est-à-dire cette façon d'étudier les productions humaines, les œuvres, comme disait Meyerson, dans une perspective d'histoire, et Vernant réunit la réflexion, l'approche de Meyerson, Ignace Meyerson, et de Louis Gernet. Mais Vernant a quand même un pied, si je puis dire, du côté du structuralisme, parce qu'il propose, avec son analyse du mythe d'Hésiode, qui a été fameuse, une analyse structurale d'un mythe particulier, le mythe des races d'Hésiode, mais celui qui lui sert de guide dans ce travail, c'est Dumézil, c'est Georges Dumézil, c'est-à-dire les trois fonctions de Georges Dumézil, et voir si ça marche ou ça marche pas, si ça colle ou si ça colle pas, jusqu'à quel point, quand on s'intéresse à un mythe grec. Et je disais, oui, il a un pas aussi dans le structuralisme, car il est invité à participer, alors peut-être à cet événement dont vous parlerez peut-être, ou dont vous avez peut-être parlé, qui est le colloque qui a eu lieu à Baltimore à l'automne 66, colloque de Baltimore, où c'est l'arrivée de la French, enfin ce qu'on n'appelle pas encore la French Theory aux États-Unis, hein, avec justement Lacan, Derrida, qui avait Barthes, Todorov, Lévi-Strauss, je ne crois pas, et Vernant. Bon. Qui montre d'ailleurs un assemblage, le caractère complètement hétéroclite de cet assemblage, sous ce même pavillon. Hein. Mais ça, je l'indique, non pas par souci d'anecdote, mais pour montrer que Vernant, par sa position, par sa notoriété, était quelqu'un qu'on convoquait ou qu'on invitait dans ses débats sur le structuralisme. Et qu'est-ce qu'il présente à Baltimore ? Un exposé sur la tragédie grecque. Donc, quelque chose qui n'est pas directement homologue à ce qu'a pu proposer Lacan et que personne n'a compris, ce qu'a pu proposer Derrida, etc. Bon. Là, dernier point, cette histoire ancienne est encore, à ce moment-là, très minoritaire. Il ne faut pas du tout avoir une erreur de perspective. Et ça n'est pas parce que Vernant est là et qu'il est, on fait appel à lui ici ou là, la grande masse des études sur l'Antiquité ne tient pas compte de ces propositions, ou même les refuse, et Dumézil lui-même, comme vous le savez, n'a jamais été accepté par, en particulier, les romanistes français. Alors, je vais m'arrêter pour qu'on ait quand même quelques instants de discussion possible. Gardez simplement, c'est tout ce que j'ai voulu essayer de vous suggérer, à la fois ce recul, ce décalage un peu de l'histoire, cette voie propre de l'histoire, et qui est néanmoins travaillée par la question du structuralisme, mais à sa façon et selon son rythme.
Il me semble que ce que tu nous as bien montré, mais c'est un petit peu tout, c'est un peu la confirmation de mon propre projet, c'est que ne nous trompons pas en ne faisant de ce moment qu'un moment structuraliste, comme on a parfois tendance à le faire. C'est pour ça que d'ailleurs dans le cours d'aujourd'hui, j'ai parlé de Mauriac et d'Aragon, qui au fond sont les auteurs qui sont lus dans cette année-là, beaucoup plus que le structuralisme. Et donc tu nous as bien montré qu'au fond, il n'y avait pas eu véritablement de débat dans cette année-là, en tout cas, entre histoire et structuralisme. Vernant était philosophe. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il est philosophe, justement, qu'il est un interlocuteur dans ce débat, alors que les historiens le sont peu?
Oui, ça joue un rôle. Et puis, Vernant est un philosophe de formation, au moins, et il vient d'entrer, enfin, il n'y a pas longtemps, à l'école pratique. Il participe aux activités du centre de recherche marxiste. Bon, cet endroit qui intellectuellement a rassemblé tout un tas de gens qui étaient plus ou moins en rupture de banc avec le Parti communiste. Bon, et tous ces gens se parlent, travaillent, et au fond, il fait partie de ce milieu-là. Il n'est pas du tout confiné à l'histoire, parce qu'il n'a jamais été reconnu au fond par les historiens. Il n'est pas confiné non plus à l'Antiquité. Voilà. Donc il échappe à tout ça.
Il n'est ni philologue ni historien.
Non.
Et donc, oui, il reste marqué, je crois, par la philosophie et par le marxisme. D'autre part, je crois que tu n'as pas une seule fois prononcé le nom de Sartre. Or, ce débat est très largement un débat entre sartriens et anti-sartriens. S'il y a une telle focalisation sur cette hostilité de l'histoire et de la structure, c'est notamment s'il y a une telle focalisation autour de la pensée sauvage, c'est à cause du dernier chapitre de la pensée sauvage, qui est un chapitre très agressif
à l'égard de Sartre,
oui. De Lévi-Strauss à l'égard de Sartre.
Oui, oui, oui.
Donc j'ai oublié qui a fait le compte-rendu, enfin il y a un compte-rendu très sévère de la pensée sauvage dans les temps modernes, je ne sais plus qui l'a fait. Enfin, le débat est engagé, enfin, notamment dans le numéro d'Esprit de 1963, comme un débat entre Sartre et Lévi-Strauss.
Oui.
Et donc, quand on parle d'histoire, c'est pas vraiment l'histoire des historiens, mais dès le départ, c'est la dialectique. C'est la dialectique historique qui est en cause dans ce débat entre histoire et structure.
Oui, en effet, Sartre représente l'histoire.
Sartre
représente l'histoire, et là, alors c'est le cas dans le chapitre de Lévi-Strauss, et ça va se reprendre avec Foucault.
Avec Foucault. Voilà.
Puisque Foucault, avec les mots et les choses, donc quelques années plus tard, va être accusé d'être un positiviste désespéré et, au fond, d'être le dernier, le fourrier de la bourgeoisie, quoi. Et Foucault, qui ne se laissera pas faire, va rétorquer en disant que Sartre est le dernier philosophe du XIXe siècle. Mais donc, quand on parle d'histoire, c'est de cela uniquement dont on parle. Celui qui alors viendra intervenir un peu plus tard, de manière plus avec plus de substance, c'est Claude Lefort.
Donc tu dirais qu'il n'y a pas d'historien structuraliste dans cette période. C'est curieux comme conclusion, parce qu'il y a une telle présence de ce débat, tout le monde écrit sur cela. Il y a des numéros de revues en quantité, on se souvient de volumes. J'évoquais tout à l'heure Maurice Godelier, qui a écrit abondamment sur cette question. Et au fond, les historiens continuaient leur chemin.
Oui, ils continuent leur chemin, mais comme je te dis, avec Braudel qui marque... qui revendique au fond la structure, mais en l'entendant...
En l'entendant au sens de longue durée.
De longue durée. C'est ce qui bouge très lentement, c'est ça la structure. Bon. Ouais. Il pouvait très bien parler en 1949 d'histoire structurale, mais en 1966, il estime qu'il ne peut plus prendre à son compte cette histoire structurale parce qu'il ne veut pas être confondu avec le structuralisme qui rêve d'abstraction mathématique. Ça, il n'en a rien à voir avec ça. Bon, donc, c'est toujours cette attitude, on s'en approche, on essaye de voir ce qu'on peut en tirer, mais on se replie sur des positions plus ou moins assurées ou qu'on pense s'être assurées à l'avance. C'est quand même ce mouvement-là. Plus, comme je le disais, alors ça c'est d'un point de vue, disons, plus comme ça, de tactique dans ces années-là, quand même une certaine peur d'être emporté par la linguistique et l'anthropologie. Et l'anthropologie, alors, simplement, l'anthropologie historique, j'ai dit un mot, enfin je n'ai pas du tout parlé de ce que c'était, mais l'anthropologie historique de Vernant, proposée par Vernant, n'est pas la même que celle que va proposer Le Goff, qui va être le maître mot des années 70-90, justement, à l'école des hautes études. Puisque l'anthropologie historique de Le Goff, à mon avis, qui a donné l'occasion de faire toute une série de travaux extrêmement intéressants, c'est pas de ça dont il s'agit, il ne s'agit pas de mettre en question cela, mais l'appellation elle-même, elle est formée sur anthropologie structurale. Anthropologie structurale, c'est Lévi-Strauss. Bon. Et ça, évidemment, il faut s'en distinguer. Donc, on remplace structurale par historique. Mais on garde anthropologie, ce qui est un peu bizarre, puisqu'on aurait pu dire histoire anthropologique ou histoire structurale. Mais de mettre... anthropologie historique simplement pour se distinguer d'anthropologie structurale montre bien qu'on est dans une position de réaction ou de défense ou de distinction et qu'on ne propose pas soi-même quelque chose, on est plutôt dans une position de réponse à quelque chose, tout en essayant de tirer profit de ce qu'a pu apporter ce qu'on appelle l'analyse structurale et qui souvent, le plus souvent, n'a rien à voir avec ce que Lévi-Strauss lui-même entendait par analyse structurelle.
Une question de détail. L'article de Furet sur les intellectuels et la structure, où est-ce qu'il est publié, c'est là ?
Il l'avait publié dans cette revue qui s'appelait Preuve.
Preuve.
Et il l'a repris dans son ce recueil de textes qui s'appelle L'atelier de l'historien.
D'accord. Parce que c'est une thèse qui a, pendant un certain temps, s'est imposée, celle-là.
Oui.
Celle d'une France expulsée de l'histoire, qui expulse l'histoire, c'était quand même l'un des grands griefs contre Foucault.
Oui.
Qui était fait, notamment par les communistes. Quand il est accusé de technocratisme. Oui. C'est...
Et il y a un certain nombre de déclarations de Foucault qui, il faut bien le dire, peuvent laisser prise à de telles interprétations.
Oui. Oui, juste au début. Oui. Au début. Et je disais, je crois, j'évoquais en t'introduisant le Pierre Villard. Pierre Villard,
oui.
historien marxiste de l'économie. Il y a toute cette histoire économique aussi.
De la Catalogne, oui. Oui. Sa grande thèse sur la Catalogne.
Grande thèse sur la Catalogne, sans doute faite avec Labrousse aussi, j'imagine. Oui. Et domaine où un certain structuralisme aurait pu intervenir, puisque c'est, enfin, dans son histoire, des doctrines économiques.
Oui, mais bon, Villard, donc, s'est lancé dans cette thèse régionale. Mais aussi dans la Catalogne, mais c'est devenu un livre immense qui fait je ne sais pas combien, 2000 pages sur la Catalogne, et sa perspective a toujours été celle d'une défense d'un marxisme historique ou enfin historien, bon, qui il a toujours proposé comme quelque chose qui était en construction. C'est toujours une histoire en construction. Et il n'a pas cessé de construire cette histoire et évidemment de ne jamais l'achever. Donc il est au fond, ça a été le représentant le plus, peut-être le plus, comme ça, inventif, savant assurément, et de ce que aurait pu être une histoire marxiste. Mais évidemment, il n'est jamais arrivé à l'écrire, ou il n'est jamais arrivé à la proposer jusqu'au bout, parce que probablement c'était difficile d'y arriver. Bon. Alors, il y a un côté, Villard est un personnage qui avait beaucoup qui était très respecté, mais il y a ce côté nécessairement inachevé de cette histoire-là, et qui n'a évidemment été poursuivi par personne.
Et tu as peu parlé de conflits entre historiens dans cette période ou dans ce moment.
Alors, et, oui.
Alors, ils sont présents, ces conflits-là. Et ne reflètent-ils jamais ce type de clivage ?
Si, alors il y a un conflit, le grand débat, la grande controverse, c'est celle de ces années, mais alors ça nous met très loin du structuralisme, ça.
Oui.
C'est celle entre Mounier et Labrousse, justement. Entre l'analyse de la société d'Ancien Régime en termes de classe, est-ce qu'on peut faire une analyse de classe, est-ce que c'est exact, est-ce que c'est vrai, bon. Ou il faut procéder à l'analyse de ces sociétés d'Ancien Régime en mettant, en utilisant comme grille d'analyse les ordres. Donc c'est ce grand conflit ordre-classe, et ça, ils se sont battus avec beaucoup de tenue, d'ailleurs. Ils ne sont pas battus comme des chiffonniers, hein, mais ils se sont battus, et ça a fait deux camps. Hein. Alors Mounier était à la Sorbonne, Labrousse était aussi à la Sorbonne, mais aussi à l'école des pratiques. Et c'est le grand, grand débat historiographique, ça. Et on est très loin, comme toi, des affaires structuralistes. Et ce sont les mêmes années.
Oui, c'est pour ça que je pense qu'il faut aussi l'évoquer, parce qu'il y a, s'il n'y a pas, si le conflit avec les structuralistes est un conflit au fond des philosophes de l'histoire, et non des historiens, il y a des conflits qui engagent quand même des considérations de structure.
Oui, 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 bien sûr. Bon. Et tu as quelque chose alors qui est là, qui est le conflit sur les interprétations de la Révolution.
Voilà, pour ça que je l'évoque. C'est à celui-là que je pensais.
Auquel on arrive, mais c'est pas le plein moment de ce conflit-là. Hein. Oui, on n'en est pas encore. Enfin, l'opposition Soboul-Furet, bien sûr, elle existe, mais c'est pas. Je crois que c'est il me semble un tout petit peu plus tard qu'elle devient vraiment comme ça très forte. Hein, avec Penser la Révolution.
Oui, elle est moins forte à l'occasion du livre de Furet-Richer, qui sur ce plan-là n'est pas.
Non, parce que c'est une histoire de la Révolution. Oui. Voilà, c'est pas encore.
C'est pas encore une thèse sur la Révolution. Voilà. Mais ces deux débats engage les questions de continuité et de discontinuité, qui sont quand même les points cruciaux de la réflexion sur le structuralisme de l'histoire.
Mais je n'ai pas étudié ça d'aussi près que tu le fais en ce moment, mais il me semble que justement, on ne fait pas le lien.
Le lien n'est jamais fait.
Que tu as la sphère du débat, des débats structuralistes, ces débats des historiens qui engagent ce type de questions, qui pourraient à ce moment-là être repris dans l'arène structuraliste, ou quelque chose de l'arène structuraliste qui pourrait être transféré dans les controverses historiennes, mais non, je pense que ça ne se fait pas.
Bien, bah écoute, je crois que nous allons te remercier de ta présence avec ce point de vue.